Chers amis, Hachem Alechem Tichyou, les Horech Chaim Tovim Shanim Nehemim. Poursuivons notre étude de Parashat Vayeshev. Nous sommes arrivés là où les frères retournent chez leur père et lui montrent la tunique tachée de sang qu'ils ont trouvée, qu'ils auraient trouvé, la tunique de Yosef tachée de sang. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont égorgé un bouc, Seirizim, Vaitbelou, parce que le sang du Seir ressemble à celui, est un peu comparable à celui de l'homme. Et ils ont trempé la tunique, Ketonet Apassim. Vaishalehu et Ketonet Apassim, Vayavu et Laviem. Donc ils ont envoyé cette Ketonet-là, et ils l'ont apporté à leur père. Bayom Ruzot Matsano, il lui dit, voici ce que nous avons trouvé. Akerna, reconnais, Ketonet bin Chahi Imlo. Est-ce que c'est la tunique de ton fils ou pas? Tout ça, toute cette discussion-là mérite toute notre attention, parce que ils ont trempé la Ketonet Apassim, il n'y avait que Yosef qui possédait ce genre de tunique. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu reconnais la tunique de ton fils? C'est superflu. Alors, il y a marqué dans le verset, Vayakira, il l'a reconnu, Yaakov a reconnu la Ketonet. Vayomer Ketonet Beni, Hayara'a Chalathu, Tarof Toraf Yosef. Donc, c'est Yaakov qui dit que si c'en est, il en ressort donc que c'est la Ketonet de Yosef. Il a été dévoré, déchiqueté par un animal sauvage, par une bête sauvage. Alors, il va ikra Yaakov simblota, va yasem sak bemotnav. Donc, il déchire ses vêtements, il se met un cilice, vit abel ad beno yamim rabim, et il s'endeuille sur son fils de longs jours, Rachidi, 22 ans. Vayakumu kol banav et kol benotav le nahamo. Donc, ils se sont levés au bout d'un moment, les frères, tous les frères et ses filles se sont levés. Donc, il s'agit, les Rachid dit que ce sont ou les femmes, ou les filles, avec chaque enfant, il y avait une sœur jumelle. Le nahamo, et pour le consoler. Et Yaakov a refusé. Et il dit, voyons, merkere del beni avel shola. Vayev koto aviv. Donc, Yaakov est inconsolable. Il ne peut pas se consoler de la disparition de Yosef. C'est une situation de non-retour pour Yaakov. Donc, ça ressemble quelque peu au désespoir dans lequel se trouve plongé Sarah quand on lui dit que Ishmael a été sacrifié. Donc s'il a été sacrifié, ça veut dire que tout est perdu. Abraham n'a pas compris le message divin. Donc la volonté divine ne se réalisera pas. Nous avons travaillé tant d'années, toute notre vie nous avons œuvré pour rien. Et nous prions dans Ovale Tzion, nous disons dans la prière, nous mentionnons cela, que il fasse à Kadosh Baruch Hu en sorte que les efforts que nous faisons, que la vie que nous menons et le labeur que nous procurons, que nous faisons, ne soient pas vains. C'est ce que nous disons dans Oval et Tzion. On dit la manière suivante. On dit, alors, dit Baruch Eloheinu Shibaranu Lirbodo, Vivinanu Natoim, béni soit l'Éternel qui nous a créés pour sa gloire, qui nous a distingués de ceux qui se trompent, il nous a donné la Torah, une Torah de vérité, et il a planté en nous la vie éternelle. Que Kadosh Baruch Hu nous ouvre le cœur dans la compréhension de la Torah, et qui met en notre cœur l'amour, la crainte, afin d'accomplir sa volonté. Ou l'ovdo belevav shalem, que nous le servions d'un cœur entier. L'on ira la rig, mais l'on est la belaya, sans que ça veut dire que, que nous œuvrions pas, que nous fassions pas des efforts en vain. Mais l'on est l'aide d'Abel, c'est-à-dire que les efforts que nous faisons pour éduquer nos enfants, nos petits-enfants, que la transmission se fasse ne soit pas vaine, c'est-à-dire que tous les efforts qu'on investit, ils soient pour la pérennité, qu'ils soient que la continuité, que ça se prolonge. Parce que c'est pas pour nous-mêmes que la vie éternelle, donc il y a ici une notion de Chaye Olam Nata Betochenu, il a planté en nous la vie éternelle, mais cette vie éternelle-là, elle est liée au fait que la transmission se fasse, et que les générations, que nous sachions éduquer et guider les générations à venir dans le chemin de Avodat Hashem, de sorte que, là aussi, c'est l'éternité. C'est-à-dire que génération après génération, nous soyons, toutes les générations empruntent le chemin de la tradition et pratiquent la Avodat Hashem. Alors ici, mais si Yosef est perdu, donc tout ce travail-là, il a été inutile. Donc c'est exactement la RIC. Donc comment cet homme va-t-il pouvoir se consoler de cette perte? En fait, tout ça, toute la construction de Shifteya, des tribus d'Israël, Yosef est le pilier, le fondement sur lequel toute la structure repose. Et s'il n'est plus là, il est irremplaçable. Donc il refuse de se consoler. Et entre-temps, les Midianites ont vendu Yosef, ont descendu Yosef en Égypte et l'ont vendu à Potiphar. Donc, il y a marqué juste après que Vayhi ba'etahi, Vayered Yehuda met Ehaviot. Yehuda a été démis de ses fonctions, de ses prérogatives. Yehuda, qui est le chef, qui est le destiné à être le guide, le gouvernant, celui qui détient la royauté, il a été démis. Pourquoi? Parce que les frères voient dans quelle situation se trouve leur père et ils en veulent, ils en font le reproche à Yehuda. Rachid dit, la man ismecha parashazu lekan, vivsig be parashazel, et la met seuridu ahav migdulato. Donc les frères ont destitué Yosef ont destitué Yehuda de ses prérogatives. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la douleur de leur père. Donc, inconsolable. Donc, il n'y a plus rien. Alors que Yehuda doit être celui qui détient le pouvoir et il est le roi, et toute la famille est disloquée pratiquement. Vaïe ba'et, vaïe red Yehuda met echa, vaïet adish adul ami ushmo Hira. Donc, Yehuda, il se lie avec ce monsieur Hira. Vaïa sham Yehuda bat ishkenani ushmo shua, vaïe kahia, vaïa voila. Donc, Yehuda, il prend une femme. Et cette femme-là va lui donner, va t'élever de l'eau, ben, alors il va lui donner deux enfants, Aer et Onan, et un troisième enfant qui va s'appeler Shela. Donc, il est dit ici, va ikar Yehuda Isha l'Aer Bechoro, Shma Tamar. Donc, Yehuda va prendre une épouse pour son fils Aer qui s'appelle Tamar. Rashi nous dit que c'est Tamar et la fille de Shem ben Noah. Alors, Er se comportait mal, va yer Er bechor Yehuda ra ben Hashem, va yamite Hashem. Donc, Rashi dit, pourquoi il est mort? Parce que il voulait pas que Tamar tombe enceinte. Donc, il faisait en sorte d'empêcher, il prenait un préservatif, en gros. Donc, il avait un rapport, de sorte qu'un rapport, mais sans qu'il puisse donner naissance. Donc ça, c'était pas acceptable. S'il se mariait, c'est pour avoir des enfants. Donc, Er est sanctionné. Après, il est dit, donc, « Vayomer Yehuda le Onan ». Donc, Yehuda, il propose à Onan de faire Yiboum, de se marier. Donc, quand le frère est mort sans enfant, donc la veuve doit se marier, faire le Lévirin avec le beau-frère Onan. Donc, Vayeda Onan Kilolo Yehazara. Donc, Onan, sachant que c'est pas pour lui, que la descendance qu'il aura, ce sera la descendance de son frère décédé, pas la sienne, il a agi de la même manière. Donc, il voulait pas qu'elle tombe enceinte. Donc, cette femme-là a causé la mort de deux enfants. Donc, qu'est-ce que dit Yehuda? Yehuda a dit, cette femme-là, elle est un peu dangereuse. Peut-être que c'est de son fait à elle que mes enfants meurent. Donc, Vayera ben Hachem, Vayomer Yehuda et Tamar Kalato, Shevi Almana Betavir, il dit, retourne à la maison de ton père jusqu'à que Shéla, le troisième fils, grandisse. Mais il n'avait pas l'intention de lui donner pour la, de la, qu'elle soit son épouse, parce qu'il avait peur que de perdre le troisième fils. Alors, le passage dit, Vayirbu Ayami, Vatamot Batshua, donc la femme de Yehuda est décédée, et donc Yehuda, donc il était libre, il est monté pour, et a été un lieu pour tondre ses troupeaux. Et ça, Tamar l'a su. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est le fameux épisode, la rencontre de Yehuda avec le Tamar. Vayugal le Tamar le Moriné Hamir Ole Timnata la Goz Tsono. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé les vêtements de deuil. Elle s'est habillée et elle s'est placée, elle s'est voilée et elle s'est placée à la croisée des chemins. Là où Yehuda doit passer. Donc, pourquoi elle a fait cela? Parce qu'elle a vu que Shéla a grandi, qu'elle était toujours à la maison de son père. Donc, Yehuda, de manière claire, il voulait pas qu'elle soit l'épouse de Shéla. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Vayir'ea Yehuda vayachvea lezona. Donc, Yehuda l'a vu, il l'a prise pour une prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle avait couvert son visage. Donc, est-ce qu'elle avait couvert son visage? Ça signifie que quand elle était à la maison, elle couvrait son visage, Yehuda ne la connaissait pas, n'avait pas vu son visage. Ou bien ça signifie que l'habitude des prostituées est de couvrir et de couvrir le visage. Voyette, elle est, donc il pouvait pas, donc c'est la manière de faire des prostituées, elles ne veulent pas se montrer. Donc elles se couvrent, elles cachent leur visage parce que c'est l'usage des prostituées. Donc, Yehuda s'approche d'elle, va y être, elle est là, elle est derrière, va y omer, avana, avo, elahir, kilo yada, kichalatohi. Donc, il commence à discuter avec elle, il dit, qu'est-ce que tu me donnes si je peux. Donc, il voulait avoir, quand il parle avec elle, c'est-à-dire qu'il va avoir un rapport. Alors, il dit, qu'est-ce que je te paye pour avoir un rapport avec toi? Donc, elle lui dit, qu'est-ce que tu me donnes? Il dit, je t'enverrai un agneau. Donc, et voilà. Alors, il lui dit, en attendant que tu m'envoies l'agneau, donne-moi des garanties. Donc, elle lui prend un gage. Alors, il dit, va yomer ma'eravon. Alors, il lui dit, c'est quoi le gage? Il dit, hotamecha, petilecha, donc, ton seau, ton vêtement où il y a les petits lits, umatecha et ton bâton. Donc il lui donne. Bon, après il a un rapport avec elle, elle rentre chez elle, donc il la retrouve pas. Et quelque temps, un peu au bout de 3 mois, Yehuda a envoyé l'agneau pour retrouver la prostituée en question pour lui payer, et on la retrouve pas. Et au bout de 3 mois, il y a marqué, voyez, qui Yehuda, Tamar Kalatra, voilà, elle a trompé, elle est enceinte, elle est tombée enceinte de manière interdite. Alors, elle est passible de mort. Donc, au moment où on l'a décrété qu'elle était passible de mort, c'est à ce moment-là, donc, qu'on allait la condamner, qu'elle envoie, le gage à Yehuda. Il dit, voilà, c'est à cet homme-là que je suis enceinte. C'est avec lui que j'ai eu l'enfant. Ou, imotet vishalha elhamia lemor, la'ish asher elelo anochi hara. Donc, il lui a dit, reconnais la hotemet, le seau, le petit lim et le bâton. Yehuda a reconnu immédiatement. Voyons, merde, tzadka mimeni. Donc, elle avait raison. Elle a bien agi. Parce que je n'ai pas voulu la donner à mon fils, Sheila. Donc, elle va avoir, vaillé Be'et Lidata, Tomim. Elle a donc deux jumeaux, vaillé Belita, vaillé Tenyad, vaillé. Donc elle a deux enfants. Alors quels sont ces enfants-là? Alors elle a Peretz et Zara. Donc les deux, ces deux, donc c'est Yehuda donne avec Tamar naissance à la descendance qui va donner naissance plus tard à David HaMelech. Donc ça c'est l'histoire qui est marquée ici, qui est indiquée ici. Et on remarque, là, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de... Nous avons vu que la Providence fait en sorte que Yosef descende en Égypte. Et Yosef est entre la descente en Égypte de Yosef et l'arrivée de... où la Torah indique que Yosef est arrivé en Égypte et il est dans la maison de Potiphar. Nous avons une parenthèse où on raconte cette histoire-là. Et c'est l'histoire de la venue au monde de l'enfant. Yehuda donne naissance à un enfant qui va donner, qui est la dynastie de David, donc le Mashiach, la réparation. Donc c'est comme si qu'il est dit qu'il n'était possible, donc Chachamim, Rashi, comme nous l'avons mentionné, indique que cette histoire-là n'a été possible que justement parce que Yehuda a été destitué, donc il est parti chercher à se marier, donc il s'est écarté de ses enfants, de ses frères, à cause de Yosef. Donc c'est comme si que Yosef, c'est lui la cause de cette démarche de Yehuda. Donc, c'est la providence qui... Yosef, il est dans son rôle. Donc la position, nous avons déjà dit que la position de Yosef n'a pas de pouvoir pour lui-même. Il est celui qui va donner à Yehuda la possibilité de s'épanouir et de prospérer, de se développer et de se réaliser. C'est pour ça qu'on a introduit l'histoire de Yehuda entre le début de la vente de Yosef et le fait que les caravaniers vont l'amener en Égypte, et le fait qu'après on dit Ve Yosef urad mitzrayma veikaneo Potiphar. Yosef est arrivé en Égypte et Potiphar l'a acquis. Donc c'est comme si que cette histoire-là elle est imbriquée, et ça définit parfaitement l'amida, la qualité particulière de Yosef en tant que celui qui détient le rôle du Yesod, le tzaddik par définition, si on dit tzaddik Yesod Olam, le tzaddik, la définition du tzaddik, c'est celui qui agit en faveur des autres, il ne fait rien pour lui-même, il n'est là que pour satisfaire les autres, tout ce qu'il fait, il le fait en faveur des autres, il le fait pour que le bien-être des autres, pour que les autres arrivent à se réaliser. Il possède des qualités, des énergies, des possibilités qu'il met au service tout en dans l'entière discrétion pour le service des autres. Ça, c'est la mida de Yosef, et c'est comme ça que se réalise le Malchut Bet David. La royauté de David ne se réalise que par l'intermédiaire de Yosef. Et on voit aussi que Shaoul, la royauté lui a été prêtée pour un temps, afin de permettre à David de se réaliser plus tard. Donc c'est David, David ne peut récupérer la royauté que si Shaoul l'a initié au départ. Le premier roi d'Israël, c'est Shaoul, parce que David ne peut pas posséder la royauté si Shaoul ne l'a pas précédé. Donc c'est Shaoul qui met David sur les rails, sur la voie de la royauté et du règne. Alors Peretz, il est le père de la dynastie. Alors c'est ce qui est marqué à la fin de la Megillat Ruth qui n'a été écrite que pour faire la filiation de David. Il est dit à la fin de la Megillat Ruth, Vele toldot Peretz. Peretz olid et à Hetzron. Hetzron olid et à Ram. Ram olid את עמינדב, עמינדב הוליד את נחשון, נחשון הוליד את סלמה, וסלמה הוליד את בועז, בועז הוליד את עובד, עובד הוליד את ישי, ישי הוליד את דוד. Donc on a relié, on relie ici à la fin de Megillat Ruth, Peretz à David. Et ça, c'est pour indiquer que la Malchut va se réaliser là. Donc c'est la gestation de la réalisation du Malchut, de la royauté d'Israël. C'est la finalité. Et cela n'est possible que par le travail en sous-main. De Yosef. C'est par Yosef que cela se réalise. Donc, il y a à noter que cet épisode-là, qui met en scène Yehuda, sa femme, Tamar, et Réonan, et après Peret, ces personnages-là se retrouveront sous d'autres noms dans la Megillat Ruth. Nous avons Elimelech. Et nous avons Naomi, nous avons Boaz, Mahlon et Kilion, Ruth et Orpa, et nous avons Boaz. Donc, dans les Sfarim Akdoshim, nous disons que c'est les personnages de la Megillat Ruth sont les mêmes personnages que l'épisode qui est raconté ici avec Yehuda et Tamar, mais sous une autre forme. Parce que ce qui dérange dans l'épisode de Yehuda et Tamar, c'est pas le fond de l'affaire, c'est la forme que ça prend. Et nous allons voir que la forme doit être réparée. Le fond, il est cachère. Mais c'est dans la forme que cela paraît plus ou moins incorrect. Comment Yehuda, qui est qualifié de saint parmi les saints, il s'approche d'une prostituée. Donc, dans la forme, ça pose problème. Donc on va voir que Boaz, qui est la réincarnation de Yehuda, quand Ruth arrive dans le champ et qu'elle se met à ses pieds, alors au milieu de la nuit, il se réveille, il voit cette femme, et alors elle lui dit « je suis libre », elle dit « toi aussi tu es libre ». Non, il dit « on va prendre le temps, on ne va pas faire comme la première fois, alors on va prendre le temps de statuer sur la situation et de faire les choses de manière claire, avec le consentement du Bédine ». Donc il répare la Megillat Ruth, c'est la réparation de la forme qui a compris les événements ici avec Yehuda. Et pourquoi c'est comme ça? Nous disent les Farshim, les âmes les plus hautes. Alors si elles viennent, Kadosh Baruch Hu utilise pour amener les événements les plus éminents, les plus nobles, les plus profonds, les plus intéressants, et les âmes et les personnages les plus Kedoshim, prend des chemins détournés, parce que s'il va les réaliser de manière directe, alors il y aura énormément d'accusations, d'empêchements, des kohatouma qui empêchent, que ça risque de ne pas se réaliser comme on voudrait. Alors, Akadosh Baruch Hu habille les événements, habille les choses en apparence comme étant déjà acquis au mal. Yehuda qui a un rapport avec une prostituée, ça paraît tout à fait négatif. Donc il n'y a rien qui va empêcher. Donc dans le fond, c'est quelque chose de d'éminent, et dans la forme, c'est quelque chose en apparence, c'est quelque chose d'abject, de pas correct. Donc et là, c'est comme ça que toute la démarche. Mais on retrouve à peu près la même histoire aussi dans Boaz. Et avec David, avec Ishaï, c'est dans toute la venue du Mashiach. Le Mashiach, le fond, il est bon, mais l'apparence que prennent les événements, elles sont en apparence négative, de sorte qu'il y a rien ne vienne empêcher la réalisation de ces faits. C'est Nora, Reu, Lechou, Reu, Mifaot, Asher, Alilal ben Hachem vialu Nora Alilal ben Adam. C'est exactement à ce sujet-là que l'on peut appliquer ce verset. Il agit avec de telles choses. Il est redoutable dans la réalisation des choses les plus grandes qui paraissent Alila, qui paraissent mauvaises. Baruch Adonai Leolam, amen ve'amen.